Sud Radio, il est 4h. Parlons vrai. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi, sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie, pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Christophe Buisson et Arthur Chevalier. Jean-Christophe Buisson est rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, spécialiste d'histoire. Il a écrit nombre d'essais historiques et anime l'émission Historiquement Chaud sur la chaîne Histoire. Arthur Chevalier est éditeur et écrivain, spécialiste de Napoléon. Il vient de publier aux éditions du CERF, un essai intitulé « L'histoire à l'épreuve des émotions ». D'histoire, il en sera question tout au long de cette émission. Comment raconter l'histoire à l'heure de l'archipel français, de la concurrence mémorielle et de la déconstruction woke? La culture de l'effacement va-t-elle priver les nouvelles générations d'histoire et de mémoire? L'histoire est-elle une affaire de raison ou de passion et d'émotion? Faut-il réenchanter l'histoire et réinventer le roman national? Tout de suite, les réponses de Jean-Christophe Buisson et Arthur Chevalier en toute vérité.
En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Arthur Chevalier, Jean-Christophe Buisson, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Ravi d'être avec vous ce dimanche pour parler d'histoire. Comment la raconter dans notre époque où l'on déboulonne les statues? Ce sera notre fil rouge dans cette émission. Arthur Chevalier, en commençant avec vous, vous publiez aux éditions du CERF un essai intitulé L'histoire à l'épreuve des émotions, avant de parler de votre livre, mais c'est en lien en fait avec votre livre, peut-être un mot sur l'actualité, notamment sur ce qui se passe à Sciences Po. On a des comparaisons entre Gaza et Treblinka, des accusations de génocide, des étudiants qui manifestement ne savent pas situer la Palestine sur une carte. Alors là, c'est plutôt un problème de géographie, si vous voulez, mais qu'est-ce que vous pensez de ces analogies historique? Et dans votre livre, vous parlez vous inquiétez de la dissolution de la mémoire chez les jeunes générations. Est-ce que tout cela en est un exemple, et un exemple d'autant plus inquiétant que ça se passe dans une école qui est censée fabriquer les élites françaises?
Alors, sur ce qui se passe à Sciences Po et dans certaines universités françaises, mais pas que d'ailleurs, hein, puisque c'est un mouvement étudiant qui traverse la planète. Bon, cela dit, ces étudiants, des mouvements étudiants, on les a pas inventés aujourd'hui. Je veux dire, ils ont existé pendant la guerre du Vietnam, il y en a eu beaucoup. Si on essaye de comprendre ce qui se passe là, relativement au monde dans lequel on vit, qui serait, disons, plutôt émotif que raisonnable ou rationnel, puisque c'est un peu mon idée, quoi. Je dirais que ce qui me frappe, c'est dans les prises de parole. Donc, j'essentialise pas tous les étudiants, je parle de ceux qu'on entend et qu'on voit. C'est typiquement le raccourcissement du temps, le rétrécissement du temps. C'est-à-dire que, par exemple, depuis deux semaines, on entend parler de l'opération de représailles israélienne à Gaza. Je leur laisse le mot de génocide que moi je n'emploierai pas, surtout à l'encontre des juifs. Je pense qu'on voit quand même l'indélicatesse évidente, si ce n'est l'outrance qu'il y a dans l'emploi de ce mot. Mais si on part de ce qu'ils racontent, je trouve ça dingue que plus personne ne parle du 7 octobre, par exemple. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on analyse ce qui est en train de se passer relativement à trois semaines d'exercice, entre guillemets. Donc là, le 7 octobre n'existe plus. De même d'ailleurs que n'existe plus le très long conflit entre les populations israéliennes et palestiniennes qui court depuis la moitié du 19e siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que, sans même vouloir faire état de ce qui se passe en ce moment, c'est une histoire, nous le savons tous, très longue, très complexe, très nuancée. Il y a d'ailleurs des historiens très qualifiés sur ce sujet, on en parle beaucoup. Depuis le début de l'année, ils défient sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio. Donc je veux dire, c'est pas comme si on n'était pas dans le jus en ce moment. Eh bien non, là vous avez des individus, et d'ailleurs je ne leur prête pas les pires intentions du monde, car je pense qu'ils sont sincères. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais je pense qu'ils sont sincères. C'est-à-dire que se forme une opinion sur quelque chose à partir d'images très frappantes qui ont l'air d'être sincères, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se cristallise, mais personne ne prend le temps, entre guillemets, eh bien, de lire cette histoire dans le temps long. Et je trouve ça très frappant quand même que dans ces prises de parole, nous n'entendions pas de débat, à une époque, il y avait une vie étudiante et intellectuelle au sein de ces mouvements qui était quand même plus intense. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a juste des insultes à l'endroit d'Israël, voire même des Juifs, parce qu'on le sait, il y a des étudiants refusés à l'entrée des facultés, puisque c'est aussi un mouvement qui suscite un antisémitisme, c'est réel. Des indignations relativement à ce que des individus à Gaza sont en train d'être des victimes, ce qu'ils sont objectivement, c'est pas la question. Mais enfin, on s'arrête là, vous voyez. Donc là, vous voyez bien que tout à coup, l'émotion vaut raison, et au nom de l'émotion, tout est permis.
Jean-Christophe Buisson, Arthur Chevalier nous disait... À la fois, il y a quelque chose de nouveau, le côté émotionnel, le manque de structure, et en même temps, c'est vrai que ce type de mouvement a toujours existé. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le siècle rouge. L'extrême gauche a toujours instrumentalisé l'histoire.
Oui, mais alors, d'abord, ce qu'a dit Arthur est très juste. Il n'y a plus de débat possible. Quand on parle des mouvements d'extrême-gauche des années 70, c'était autrement plus prégnant dans l'université qu'aujourd'hui. On a quand même des toutes petites minorités qui agitent tout ça, mais il y a une masse informe qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, et ces minorités sont fortes de la faiblesse du troupeau. Dans les années 70, vous aviez des étudiants, par exemple des étudiants royalistes, des étudiants maoïstes, qui avaient fait un débat, comme a pu faire Bellamy quand il est allé faire un débat chez Libération, qui a donné un livre qui s'appelle Mao ou Maurras. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui ce type de débat possible et qui donne la publication d'un livre ?
Pourrait pas mettre Maurras dans un titre, vous difficilement, même si vous, vous
non, l'avez mais, fait. Mais... En tout cas, le débat était insensé, mais ce qui est plus important, et ce que dit très bien Arthur Chevalier dans son livre, le problème aujourd'hui, c'est l'inculture de ces gens-là. Vous l'avez dit, ils savent même pas ce qu'est la déclaration Balfour, ils savent même pas la date de l'indépendance d'Israël, ils ne réagissent qu'en fonction d'une inculture. Dans les années 70, lorsque vous aviez des débats et ce que vous dites également dans votre livre sur les déconstructeurs, sur Bourdieu, quand Bourdieu déconstruit, il déconstruit pas gratuitement, il déconstruit un système pour en proposer un autre, qu'on peut discuter lui-même et qu'on peut déconstruire lui-même. Aujourd'hui, ces gens-là ne pensent qu'à détruire une culture par leur ignorance, par leur inculture, par leur médiocrité historique, sociologique, ils répètent des slogans qu'ils ont vus, entendus à la télévision, à la radio, mais ils sont incapables de raisonner, encore moins de débattre. Moi, c'est ça qui me frappe dans ce moment wokiste, auquel on accorde trop d'importance, à mon sens, parce qu'encore une fois, c'est une ultra-minorité, et une minorité qui ne discute pas. Vous voyez bien, quand on vient les filmer sur les campus américains, ils disent non, pas vous, pas les médias, on a nos propres médias, donc vous adressez à nos médias. C'est la communautarisation à un point extrême, l'absence de débat et l'absence de culture. Voilà pour moi ce qu'est ce mouvement wokiste à Sciences Po et dans les autres universités.
Mais justement, c'est intéressant, pardon, je complète juste ce que disait Jean-Christophe, c'est-à-dire que effectivement, ce qui est très frappant, c'est l'absence de récits alternatifs. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des récits qui s'affrontaient. Il n'y a rien de très choquant à ce que gens de sensibilité de droite aient une idée de ce qu'est le récit et l'autre une idée de ce qu'est leur récit. Vous expliquez ça, c'est pas choquant, c'est normal, on est des individus différents, avec des cultures différentes. Mais là, effectivement, il n'y a pas de contre-récit, il n'y a pas de récit alternatif structuré, de sorte d'ailleurs qu'on est assez désarmé face à tout ça, parce qu'on ne sait même pas quoi dire.
Il y a quand même le récit, la légende noire, quoi. C'est un récit de repentance absolue, puisque là, Israël est visé, mais c'est très souvent l'Occident en réalité ils sont wokistes mais ils sont décolonialistes comme ils l'expliquent.
Oui, mais sur ce sujet-là ils disent grosso modo la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire détruisons Israël. Au moins l'Israélien il propose proposent deux États. Mais ils proposent même pas deux États. Il y a plus de Juifs, plus d'Israéliens, plus d'Israël. Voilà. Donc c'est pas alors là, pour le coup on est dans l'absence totale
Une forme de néant que dénonce très bien Arthur Chevalier dans son livre. Est-ce que ce néant, malgré tout, il vient pas de loin ? Est-ce qu'il y a un problème d'éducation, d'enseignement de l'histoire à l'école ? Parce qu'on parle quand même d'individus qui sont à Sciences Po. Comment ont-ils pu arriver à Sciences Po sans avoir un minimum de notions historiques ? Par ailleurs, ça vient après des décennies où on a des décennies de concurrence mémorielle, d'antiracisme victimaire. Est-ce que c'est pas l'aboutissement finalement de ce processus-là ? Je sais pas, Jean-Christophe Buisson.
Moi je suis entièrement d'accord avec cette idée-là, c'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, y compris au XIXe siècle dans l'enseignement républicain, du récit national républicain, on a mis en avant des héros. Les héros, ça date de l'Antiquité, même si le terme héros vient du 14e. Dans la langue française, arrive seulement 1370, mais avant, vous avez les héros grecs qui sont des demi-dieux, vous avez les chevaliers, les héros laïcs que sont les pro-chevaliers et les saints qui sont des héros religieux. À partir du XVIIe siècle, vous avez un héroïsme militaire, aristocratique, qui commence à converger avec un héroïsme culturel. Là, c'est l'héroïsme culturel, c'est le Cid, c'est des figures comme ça. Et en face, vous avez des héros d'opéra, des héros de théâtre, des héros de littérature. Et ça se croise, et on commence à dire que le vrai héros, c'est celui, c'est pas celui qui va faire la bataille, c'est celui qui a un grand cœur, qui est humaniste, qui est généreux. Tout ça arrive à son apogée à la Révolution, où on considère que le héros, il y a une présentation non plus essentialiste, c'est-à-dire on est héros parce qu'on est un seigneur, un grand, un aristocrate, mais existentialiste, c'est le petit Joseph Barra qui combat les armées royales et qui meurt sous le feu en criant vive la République alors qu'on lui fait crier vive le roi. Et au 19e siècle, eh bien, l'enseignement républicain reprend cette idée de héros. Avec Jeanne d'Arc qui est d'ailleurs laïcisée, on dit, bah, attendez, Jeanne d'Arc, le roi de France l'a abandonnée, l'église l'a martyrisée, donc c'est presque une héroïne républicaine. C'est de là que date le culte de Jeanne d'Arc qui n'est pas un culte d'extrême droite à l'origine. Et puis on met en avant, on rassemble tout le monde, Vercingétorix, Charlemagne, etc., etc. Et à partir de 14-18, on commence à désindividualiser les héros. On dit, 14-18, on dit les poilus. Citez-moi un héros de 14-18, là, tout de suite. Vous n'avez pas de nom qui vient.
Le soldat inconnu.
Exactement, soldat inconnu. Mouvement qui s'amplifie avec 39-45, les résistants. Bon, alors, de temps en temps, vous avez un Brossolette ou un Jean Moulin qui apparaît. Le Parti communiste essaye de construire ses héros comme Manouchian, qui, à mon sens, était beaucoup moins héroïque qu'on a pu le dire. Mais on est dans la collectivité. Et Zécolisé, aujourd'hui, n'émerge même plus de héros, émerge la notion de victime. Aujourd'hui, le héros, c'est un type, c'est un homme ou une femme qui a été victime. Victime d'un génocide, victime d'un massacre, victime d'un accident, victime de la fatalité. Mais on n'est plus dans l'héroïsation, ni individuelle comme pendant longtemps, ni collective. On est dans le culte de la victime qui a remplacé le culte du héros, avec quelques exceptions, comme un Arnaud Beltrame, qui d'ailleurs est honoré par le président de la République, comme victime, s'il sentait d'ailleurs qu'il fallait quand même des héros qui incarnent ce qu'est
la nation française,
ce qu'est la France aussi, ce panache, ce courage qui peut émerger de temps en temps. Et on en a besoin pour écrire le roman national, ou le récit national, aujourd'hui, parce que, comme l'écrit très bien Arthur Chevalier, on a besoin de réconcilier toutes ces communautés dont vous parliez tout à l'heure, de l'archipel français. Et c'est vrai que sortir un héros est quand même plus pratique que dire nous sommes formidables, nous autres Français.
Arthur Chevalier, c'est intéressant parce que justement, vous défendez plutôt l'émotion dans l'histoire. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on cédait au tout est émotionnel, mais que l'émotion a toujours fait partie de l'histoire. Et d'ailleurs, vous parlez de la Troisième République, comment elle s'est servie aussi des émotions, comme la monarchie, ça a été dit par Jean-Christophe Buisson, pour construire un récit national. Est-ce qu'on n'est pas passé justement de l'émotion au victimaire, c'est ça la question.
En fait, disons que je pense que c'est une idée européenne. Enfin, comment dirais-je, c'est une idée européenne qui a dégénéré tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment. D'ailleurs, quand je remarque que l'émotion a une importance dans l'écriture de l'histoire et dans la façon dont nous ressentons l'histoire, c'est un fait. C'est pas forcément mon idée. C'est comme ça. C'est réel. C'est-à-dire que l'Europe a inventé, si vous voulez, l'intelligence de la vulnérabilité. Parce que quand elle a connu l'effondrement de l'Ancien Régime à la fin du XVIIIe siècle, bon, il y a eu la Révolution française, mais il n'y a pas eu que la Révolution française. C'est un système de classe qui s'est effondré sur une période de 40 à 50 ans. Il y a d'ailleurs des livres très célèbres qui ont décrit cette décrépitude. Hein. Je parle beaucoup dans ce livre des mémoires du prince de Ligne, parce qu'elles sont, de mon point de vue, très frappants. Mais en fait, avec l'effondrement de son système de classe, l'Europe qui dominait le monde, évidemment, a vécu du coup le sentiment de l'effondrement. Et s'est dit, en fait, l'idée qu'on avait de la puissance et de la raison pour laquelle on dominait, en fait, tout ça n'a pas existé. Tout ça n'existait pas. Tout ça n'avait pas de raison d'être puisque ça s'effondre en 10 ans, si vous voulez. Donc, la littérature l'avait pressenti. Le Don Quichotte de Cervantes, le Simplicius et Simplissimus de Van Krieffelshausen, le Tristram Shandy de Laurent Stern, en France, Jacques le Fataliste de Diderot. C'est-à-dire, l'individu ridicule parce qu'il a trop cru en sa puissance et qui finalement, voilà, il s'effondre, finalement rien n'existe. Bon. Tout ça était poétique. Puisque l'Europe a dominé et la dernière civilisation à avoir dominé très fortement, il y en a eu d'autres avant elle, hein, c'est pas du tout un cas d'exception, et bien du coup forcément aujourd'hui, on s'en prend à elle si vous voulez, et on se rêve Et on se rêve en tyran depuis 3 ou 4 siècles, comme si on avait été particulièrement tyrannique par rapport à d'autres civilisations qui, quand elles ont été en situation de domination, ont fait exactement la même chose, c'est inévitable. Mais ce qu'on oublie de dire dans cette histoire, c'est que si l'Europe a inventé l'intelligence de la vulnérabilité, comme je viens de le dire, c'est aussi, enfin, ce que ça permet aujourd'hui, c'est justement, c'est elle qui a créé les voies de recours pour les personnes qui ont souffert. C'est elle qui a créé le fait qu'on pouvait demander, entre guillemets, réparation quand on avait subi une domination injuste ou inhumaine.
Elle n'invente pas l'esclavage, elle l'abolit, d'ailleurs.
Déjà, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'elle a fait le pire, mais en attendant, si vous voulez, elle a aussi créé tous les outils pour, non pas présenter ses excuses, mais pour qu'il y ait des réparations et pour donner des droits aux gens qui sont objectivement des victimes. Toutes ces personnes qui insultent aujourd'hui l'Europe et qui ont des voies de recours, qui sont entendues dans la presse, qui ont une société qui est prête à accueillir leurs demandes, tout ça ne serait pas possible si l'Europe n'avait pas existé. Car ça, pour le coup, il n'y a pas une autre civilisation qui a dominé, qui a inventé une chose pareille. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une idée européenne qui a dégénéré. C'est-à-dire que ce que vous appelez victime, en fait, c'est une idée qui est, pour le dire très simplement, on pense que l'Europe est la seule civilisation à avoir dominé et commis des choses horribles.
Merci Arthur Chevalier, merci Jean-Christophe Buisson. On se retrouve toujours sur Sud Radio en toute vérité après une courte pause. On continue à parler d'histoire, l'histoire qui passionne les Français. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Agen. 102.3. Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Arthur Chevalier, éditeur, écrivain, spécialiste de Napoléon. Il vient de publier aux éditions du Cerf un essai intitulé « L'histoire à l'épreuve des émotions ». Et nous sommes également avec Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef adjoint du Figaro, directeur adjoint, pardon, du Figaro Magazine. Il anime l'émission historiquement chaud. Vous avez écrit beaucoup d'essais historiques, notamment l'un de vos derniers livres est un livre sur le fascisme, le noir et le brun. Et c'est intéressant puisque Arthur Chevalier fait plutôt dans son livre l'éloge, si ce n'est du roman national, du récit national, nous explique que l'histoire est une construction, donc il faut arrêter de tout déconstruire et peut-être continuer justement à créer, à réenchanter l'histoire. Mais quelle est la limite, si vous voulez, c'est pour ça que je vous parlais de vos livres sur le fascisme, vous en avez écrit également sur le communisme, on le rappelle, le siècle rouge, entre la propagande, justement, et la construction d'un récit historique.
Très, très subtile question, parce que construire un récit historique sur le moment est, à mon avis, de la propagande. En revanche, raconter l'histoire d'une nation, d'un pays, en laissant le temps nécessaire à l'étude approfondie des tenants et des aboutissants, relève de l'enseignement tout à fait légitime. Donc on peut toujours effectivement parler d'instrumentalisation, donc de propagande, lorsque Emmanuel Macron décide de commémorer à son avantage politique des personnalités ou des événements comme le débarquement ou la libération de Paris. Mais là, il ne fait que rebondir sur des faits historiques qui sont avérés, donc c'est un geste de toute façon politique. Moi, je considère pas ça comme de la propagande, parce que je considère effectivement, comme Arthur Chevalier, qu'on a besoin de se rappeler des moments communs, des moments de joie, des moments de partage collectif, historique, je déteste cette expression, mais je vais l'employer, pour refaire nation. Parce que Arthur Chevalier mentionne un auteur, un immense auteur que j'adore aussi, qui s'appelle Claudio Magris, et qui fait une distinction parfaite entre la notion d'identité et d'identitarisme. L'identité, c'est très bien. C'est l'identitarisme qui relève de l'idéologie, qui peut être effectivement qui est un dévoiement de l'identité, du respect, du culte de l'identité. Et l'identité, c'est pas forcément l'identité nationale, c'est aussi l'identité locale, c'est aussi l'identité régionale. Et Magris, qui est un grand Européen, qui renvoie d'ailleurs dos à dos aussi bien les nationalistes purs et durs que les européistes béats, et qui raconte dans ce livre merveilleux Danube, publié juste avant la chute du mur, c'est une histoire, une géographie de l'Europe racontée de façon admirable, et bien que oui, on doit cultiver notre identité, on doit être fier de notre identité, parce que c'est ça qui nous a construit, En revanche, si cette identité devient un absolu et une fin en soi, là, on se prépare à des mauvais sentiments et un avenir sombre. Donc, la propagande, c'est justement ce qui relève de l'identitarisme, à mon avis. En revanche, le respect et le culte de l'identité à travers des événements et des figures majeures de notre identité, ça, je trouve ça très sain. Après, on peut parler de récupération politique, mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui.
Et justement, vous parliez de... Je vous donne la parole, bien sûr, tout de suite, Arthur, mais vous parliez de récupération politique et de commémoration. La commémoration fait partie de la politique, mais c'est vrai que on n'a peut-être jamais autant commémoré qu'aujourd'hui, jamais autant panthéonisé, vous évoquiez le cas Manouchian tout à l'heure. Est-ce que paradoxalement, le fait de commémorer, n'est-ce pas révélateur peut-être du fait qu'on fait de moins en moins d'histoire et si on met en parallèle l'ignorance des étudiants de Sciences Po ou la malhonnêteté, je sais pas, mais il y a quand même une part d'ignorance là-dedans, et c'est le fait qu'on commémore de plus en plus, est-ce que la commémoration vient finalement pallier un manque d'histoire?
Disons, est-ce que ce rituel remplace l'absence de rituel du temps présent? Pas tant que ça, parce que d'ailleurs, quand on fait le procès de Macron en disant il a plus commémoré que tous les autres, que Sarkozy, que Chirac, etc. En fait, on mélange dans ces commémorations les commémorations et les hommages. Et les commémorations, c'est de l'histoire. Très bien, c'est encore une fois c'est Manouchian ou c'est des grandes figures de l'histoire. Mais il a fait des hommages à qui ? À Gisèle Halimi, à je crois Robert Badinter si je ne m'abuse, aux victimes du 7 octobre. Ça c'est de l'histoire au présent. Ça c'est envoyer des signaux pour dire nous sommes avec les victimes du 7 octobre, nous sommes fiers de ce qu'a fait Gisèle Halimi. Là ils disent l'histoire présente. Arnaud Beltrame, Françoise Radetzky, vous savez le SOS attentat, les victimes d'attentats. Donc là, il est quand même dans une construction politique en disant ben voilà, ces figures-là sont révélatrices de ce que doit être l'identité française. Donc il fait vraiment je pense les deux, et il fait pas que de la commémoration passée si je puis dire, mais il fait aussi de l'hommage du temps présent pour dire voilà quels sont mes repères aujourd'hui. Et objectivement, ces repères, bah après on peut en discuter politiquement, mais au moins il donne les marqueurs de ce qu'est son action et sa pensée de ce que doit être la France.
Arthur Chevalier, justement sur ces deux questions, est-ce qu'Emmanuel Macron commémore trop, est-ce que ça révèle finalement un manque d'histoire, et vous qui défendez le récit national, où est-ce que vous placez le curseur entre propagande et récit national?
En fait, on va dire que je suis d'accord avec Jean-Claude, c'est-à-dire que bon, la mémoire, d'accord, Emmanuel Macron il agit pas sur l'histoire, il agit sur la mémoire. La mémoire, elle ne peut pas être autre chose qu'un outil politique. Elle l'est par définition. Dans le cadre républicain, c'est très vertueux. Par exemple, on va assister aux commémorations du 6 juin, débarquement du 6 juin. Bon, fort heureusement, Emmanuel Macron ne va pas avoir un mot pour les soldats de la Wehrmacht qui ont souffert le jour du 6 juin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal qu'il y ait un cadre. Enfin, voilà, on sert un pays, on sert un régime, et notre mémoire à nous, avec ses souffrances et ses triomphes. Enfin, jusqu'ici, je crois pas que le récit national, qui est en fin de compte une suite d'actualisation de la définition de la France, si on veut le dire différemment, je ne crois pas que ce soit un sujet qui intellectuellement soit si intéressant que ça. Politiquement, c'est essentiel, parce que s'il s'effondre, il n'y a plus de société, et ça, c'est pas possible. Mais intellectuellement, c'est pas... On passe beaucoup de temps là-dessus, mais c'est pas si intéressant, parce que rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire. Un récit national, depuis tout temps, même sous les rois de France, il y avait un récit national, entre guillemets. Non, ce qui est beaucoup plus qu'inquiétant, et même ça concerne aussi l'histoire, c'est effectivement, on en parlait au début, mais vous voyez, tout est dans le tout, si je puis dire, c'est l'effondrement complet de l'état de la connaissance relativement à notre propre histoire. Le récit national, c'est l'histoire qu'on enseigne aux enfants. Si vous voulez, c'est l'histoire qu'on enseigne à la société, c'est pas très intéressant. En revanche, l'histoire telle qu'on la parle, enfin telle que comme un sujet de discussion, si je puis dire, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a plus de connaissance des choses. C'est-à-dire qu'on peut plus avoir de débats nuancés, complexes et un peu sophistiqués sur les choses, parce que on vit dans l'ignorance, et précisément on vit dans l'ignorance parce que on préfère à ça l'émotion qui permet d'être beaucoup plus brève et de tout résumer à des moments très précis qui nous ont touchés particulièrement au nom justement de notre identité. Mais du coup, forcément, quand vous faites ça, eh ben, vous détruisez toute forme de discours et donc vous détruisez l'effort qu'il faut faire pour se tourner vers la connaissance. C'est-à-dire que ça nécessite aussi un effort, ça nécessite aussi un temps mental disponible et ça nécessite aussi une organisation de la société. Donc je pense que Macron, il démultiplie les commémorations parce qu'il vit dans un pays qui est politiquement fragmenté et donc du coup, il veut le rassembler par l'histoire. Il se dit que c'est un outil qui peut être un peu plus rassembleur que la politique. Moyennant quoi, j'ai tendance à penser qu'en fait, on pense qu'on peut faire faire beaucoup de choses à une société, qu'en réalité, elle est beaucoup plus autonome que ce qu'on pense, et elle a finalement assez peu de, elle réagit finalement assez peu à ce qui se passe en haut. Une statistique assez intéressante qui est sortie en début d'année, d'après un laboratoire de Yale, si je ne m'abuse, en tout cas une grande université de la Ivy League, qui démontrait que la mobilité sociale de la Révolution française était quasiment nulle. Je le dis différemment, en gros, la Révolution française n'a enrichi personne. Donc en fait, ça a été un grand moment politique, ça ne veut pas dire que c'était mal ni rien, mais en termes de promotion sociale, ça n'a pas eu un effet considérable du tout. Vous voyez, pourtant, vous voyez, typiquement, un moment qui reste dans l'histoire et qui a eu assez peu d'effet. Donc c'est pour ça que, à mon avis, ce qu'on est en train de dire...
À court terme, en tout cas.
Non, mais ça a changé une structure d'une société. Mais je veux dire, économiquement parlant, les gens qui sont enrichis grâce à ça, si on étudie la révolution de 1789, l'étude remonte jusqu'aux années 2010, je crois. Donc c'est très long. En fait, c'est très peu de personnes qui, en état d'indigence totale sous la révolution, sont devenus riches ou ont créé des grandes dynasties, si vous voulez. En fin de compte, les gens qui ont acheté les biens nationaux étaient déjà des gens qui avaient de l'argent, c'était des propriétaires terriens. Ça a permis de se débarrasser de l'aristocratie, entre guillemets, si vous voulez, et de donner à la bourgeoisie plus de pouvoir. Mais enfin, en réalité, elle était déjà en situation de domination. Passons là-dessus. Juste pour dire que l'émotion, ça renvoie, entre guillemets, aujourd'hui, et Emmanuel Macron essaye d'insister là-dessus, ça renvoie à un moment d'une société qui ne réagit plus qu'à ça et qui, en fait, ne veut plus prendre le temps du discours, n'a plus le temps pour les arguments. Et effectivement, une commémoration, l'avantage d'une commémoration sur un livre, c'est que c'est une heure, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, je veux dire, ça touche les gens ou ça les touche pas. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron les démultiplie aussi, c'est parce qu'il sait, là-dessus, il est quand même pas mauvais, il sait très bien que le monde dans lequel on vit, c'est celui-ci. Lui-même, d'ailleurs, est un homme qui fait le premier président de la République à se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez bien que c'est quelque chose qu'il a totalement intégré dans sa façon de faire de la communication politique. Et donc, naturellement, il le décline à l'histoire. Ça peut être une solution, peut-être que ça peut ramener des gens vers la nation française, pourquoi pas, mais d'un autre côté, il y a des destructions là-dedans, c'est qu'on abandonne complètement la nuance, la complexité et la connaissance, et surtout l'effort qui est requis pour aller vers l'histoire.
Merci Arthur Chevalier, merci Jean-Christophe Buisson. On se retrouve sur Sud Radio en toute vérité après une courte pause. On continue à parler de l'histoire. Histoire, sujet constant de polémique dans la société française. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Nice, 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down. Please, oh, I'm losing.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Arthur Chevalier, éditeur, spécialiste de Napoléon. Il vient de publier aux éditions du Cerf un essai intitulé « L'histoire à l'épreuve des émotions » et avec Jean-Christophe Huisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, auteur de nombreux essais historiques. Il anime également l'émission « Historiquement chaud » sur la chaîne Histoire. Et Jean-Christophe Huisson, vous vouliez réagir aux propos d'Arthur Chevalier avant la pause sur cette dictature de l'émotion et sur cette, le fait qu'on était dans une société qui ne voulait plus faire d'efforts, je crois, aussi.
Oui, mais... surtout l'absence de culture plus la dictature de l'émotion et l'émotion égale, quand j'ai sorti mon livre Le Noir et le Brun sur l'histoire des fascismes au XXe siècle, Giorgia Meloni venait d'accéder à la présidence du Conseil italien. Toutes les questions auquel j'avais droit, c'était en quoi est-elle fasciste, post-fasciste, etc. Et toutes mes réponses consistaient à dire elle n'est pas post-fasciste. Elle ne va pas faire un régime totalitaire mussolinien une fois qu'elle sera au pouvoir. Et vous voyez le résultat un an et demi après. On peut tout à fait contester certaines de ses décisions politiquement, mais elle a continué à laisser venir les migrants, elle est anti-russe, enfin contre le gouvernement de Poutine, elle est totalement intégrée à l'Union européenne, elle n'a pas fait une politique économique de guerre comme pouvaient le faire les régimes fascistes. Enfin, les libertés publiques n'ont pas été écrasées. Et c'est frappant parce que il fallait absolument à l'époque que l'émotion une italienne qui est très classée à droite, donc elle est forcément fasciste. L'absence de culture qui fait qu'on ne sait même pas définir le fascisme parce que tout est devenu fasciste à partir du moment où tout anticommuniste est un chien, bah tout anticommuniste est un fasciste. On reste sur cette idée-là de Sartre il y a 50 ans. Donc, elle est italienne, elle est droite, donc elle est fasciste, donc on va avoir droit au fascisme. Et ça, c'est l'émotion plus l'absence de culture, parce que si on a un tout petit peu de culture, on voit très bien son programme avant qu'elle accède au pouvoir, ce n'est pas un programme fasciste. On peut le considérer comme populiste, vous connaissez bien le sujet, Alexandre, mais ni comme fasciste, ni comme post-fasciste. Et ça, c'est un des désastres, je trouve, de cette absence de culture historique, de base, des fondamentaux, plus l'émotion qui fait qu'on a peur, peut-être légitimement, que la droite arrive au pouvoir, très bien, mais droite égale pas fascisme. La preuve, c'est que le fascisme est né à gauche.
Oui, c'est bien de...
Et parfois, il est mort aussi de ce côté-là.
C'est bien de le rappeler. Arthur Chevalier, oui, je vous ai posé la question tout à l'heure sur la différence entre propagande, récit historique. Jean-Christophe Huisson a parlé de Giorgia Meloni, ce qui me permet de rebondir sur Vladimir Poutine, qui pour le coup fait des discours historiques, hein, où il se sert beaucoup de l'histoire justement pour légitimer la guerre actuelle qu'il mène à l'Ukraine. Comment faire pour le coup, est-ce qu'il faudrait déconstruire intelligemment les discours de Vladimir Poutine et pourquoi ça fonctionne aussi bien?
Eh oui, mais c'est-à-dire que moi, Vladimir Poutine, même dans sa version light, c'est-à-dire avant qu'il fasse la guerre, j'ai jamais été fan, précisément parce que je fais pas confiance, parce que je historiquement, je suis d'accord avec Jean-Christophe, l'histoire ne se répète jamais, donc ça, c'est une erreur qu'on commet au quotidien. Compris nous-mêmes d'ailleurs.
C'est vrai que beaucoup, moi y compris, j'avais un peu du mal avec la critique de Vladimir Poutine parce qu'on est tellement biberonné à l'antifasciste que parfois on a des vrais fascistes qu'on ne voit plus. Bon, c'est aussi le danger.
C'est-à-dire que moi un régime qui érige l'absence de tolérance, qui nie l'altérité au sens large du terme, je pense que ça finit toujours par dégénérer. C'est pourquoi j'ai jamais été fan de ça. De même que j'ai un peu de mal à relativiser le régime politique chinois. En fait, je pense que oui, la démocratie libérale, c'est mieux que ces régimes autoritaires. Je le pense fondamentalement pour quelque chose qui, moi, m'intéresse, qui est la vie intellectuelle d'un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'on peut survivre socialement dans une dictature, mais intellectuellement, il est assez rare qu'on puisse survivre. Ça, c'est clair. C'est le seul point commun de tous ces régimes autoritaires, même de ces nouveaux régimes, en fait. C'est que la liberté intellectuelle, en général, elle y passe, pour le coup. Bon, passons là-dessus. L'histoire se répète pas. Relativement à Vladimir Poutine, c'est intéressant, c'est que c'est pas tant la guerre en Ukraine qu'il essaie de légitimer que lui-même. C'est-à-dire que l'histoire est souvent employée pour être détournée parce qu'elle permet de créer une légitimité. Vous savez, un pouvoir, son premier objectif, c'est de se maintenir. OK? quel qu'il soit, quel que soit le régime politique. Et en la matière, les moyens sont plutôt secondaires. Et il est assez rare que les gens aiment les usurpateurs, et encore moins ceux qui ont l'air de l'être, si vous voulez. Donc l'histoire permet de créer du lien, de créer de la continuité, même de façon artificielle. Vous savez, la France, quand sous l'Ancien Régime, elle a connu des transitions de dynastie. Hein. Par exemple, quand les Valois sont arrivés, qui était une branche des Capétiens, si vous voulez, quand les Valois sont arrivés, ils sont empressés de construire un récit historique pour essayer de montrer qu'ils étaient bien la continuité de la chose. Mmh. Il est très rare qu'un régime politique qui arrive par la voie des urnes ou par la voie révolutionnaire veuille s'afficher comme une véritable rupture. Vous voyez, par exemple, même la Révolution française avait créé un passé idéalisé. Il y a toujours dans l'idée de révolution l'idée d'un retour à un âge d'or. Vous voyez, la Révolution française elle-même parlait beaucoup d'histoire.
Un passé.
Oui, non mais bien
le
sûr
passé,
que oui.
Mais que l'Antiquité, c'est formidable parce que c'était avant.
Bien sûr,
non,
mais ce que je veux dire, c'est que la modernité totale et la projection totale vers le futur, c'est jamais un argument politique suffisant pour aucun nouveau régime qui apparaît. C'est pas vrai. C'est ça va aller mieux, c'est pas ça va aller mieux au nom de l'avenir. C'est ça va aller mieux.
Sauf le bolchevisme.
Oh non. Sauf le bolchevisme, absolument. Ok. D'ailleurs, en quoi il est la version dégénérée de la Révolution française, entre guillemets, lui aussi. Encore une bonne idée qui a dégénéré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de Vladimir Poutine, évidemment, comme c'est une dictature, entre guillemets, c'est un régime autoritaire. Évidemment, il raconte positivement n'importe quoi. On sait très bien comment est-ce qu'il a détruit tous les lieux de mémoire, justement, des atrocités bolcheviques. Et comment est-ce qu'en fait, il veut renouer avec un impérialisme très rudimentaire. Il n'y a rien de plus simple pour renouer avec un impérialisme rudimentaire que de ramener un peuple à des idées idiotes et simplistes comme c'était la Russie des tsars, c'était la Russie communiste. En gros, on était puissants, quoi. Voilà, globalement. Donc, de ce point de vue... C'est aussi ça le problème, vous voyez, des sociétés autoritaires où il y a un contrôle sur la liberté d'expression, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, les idées passent plus. Les idées ne s'expriment plus. Les gens ne lisent plus de livres. Pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils sont idiots, mais parce qu'en fait, l'écosystème de la société fait que ça ne les porte plus vers ça. Et dans le cas de la Russie, c'est particulièrement intéressant car c'est un grand peuple de littérature. Enfin, je veux dire, c'est sûrement une des trois ou quatre plus grandes littératures du monde. Sûrement un des deux ou trois plus grands cinémas du monde. Donc, vous
est-ce
voyez
que
comment...
c'est vrai ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les Russes lisent moins que nous? J'ai un peu de mal à le croire. Mais...
Je dis pas. Alors, en revanche, il y a une chose qui est réelle, c'est que si vous passez du temps à Moscou, ce qui a été mon cas, il y a moins de librairies à Moscou qu'il y en a à Paris. C'est pas bon, vous me direz, il y en a aussi très peu à Londres. Mais vous voyez, ils n'ont pas
de manga. Eux,
non, voilà, bien sûr. Ça veut pas dire que la littérature ne les habite plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais simplement, je pense que dans le cas de l'histoire, elle permet de créer une légitimité artificielle. C'est le chemin le plus court vers ce processus indispensable pour un pouvoir de se maintenir. Et ça recoupe exactement dans le cadre d'une démocratie ce que fait Emmanuel Macron, sans comparaison, bien entendu. Mais je veux dire. Le récit national, c'est ça aussi. Mais sauf que dans le cas de Poutine, évidemment, comme il n'y a pas d'opposition intellectuelle et qu'elle ne peut pas s'exprimer, il peut raconter n'importe quoi à longueur de journée. Vous n'avez pas des historiens interviewés sur des chaînes de radio ou des chaînes de télé très écoutées qui peuvent dire « mais non, il raconte positivement n'importe quoi sur tel ou tel fait ».
Mais moi, je veux bien vous suivre sur le fait qu'il y avait des prémices de ce qu'allait faire Poutine intellectuellement après février 2022. Mais moi, j'ai toujours en mémoire ce qu'il disait sur l'Union soviétique. Et il le pensait sincèrement, et tout s'est accéléré quand même après le février 2022. Il disait, celui qui regrette l'URSS n'a pas de mémoire, celui qui ne la regrette pas n'a pas de cœur. Et je pense que ça c'est un espèce d'en même temps local, et ça résumait très bien ce qu'était Poutine. C'était effectivement, il faut pas cultiver l'Union soviétique, les goulags, etc., mais il faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Mais moi, je vais souvent dans les Balkans, je vous assure que les Serbes, ils ont la même espèce de yougo-nostalgie de ça. Ils savent très bien que le régime de Tito était un régime autoritaire, voire dictatorial, qu'il y avait des gens qui allaient dans les camps, que tous les opposants étaient soit en exil, soit en prison, soit morts. Et pour autant, aujourd'hui, ils se disent quand même il y avait une façon de vivre, un art de vivre, d'exister diplomatiquement sur la scène internationale, qui n'était pas si désagréable. Et je pense que c'est l'ambiguïté de toutes les nations, d'avoir quand même une sorte de nostalgie pour un passé qui est bien sûr idéalisé, bien sûr fantasmé. Et quand Poutine dit ça, il dit l'URSS a commis des atrocités, mais en même temps, on était une grande puissance mondiale, on rivalisait avec les États-Unis. Et ce qui est factuellement vrai. Et donc ça, on peut le regretter qu'on n'en soit plus là. Mais si il faut une dictature qui met des millions de gens dans les goulags pour en arriver là... est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça la question qu'il fallait poser à Poutine. Et ce qu'il dit depuis 2022, c'est que, bah oui.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais avant, je reste persuadé qu'il n'était pas dans cette...
Il y a sans doute eu un basculement. On continue à parler de Poutine, mais aussi d'histoire de France, notamment après la pause, en toute vérité, sur Sud Radio, toujours avec Arthur Chevalier et Jean-Christophe Bisson. À tout de suite.
Sud Radio Albi.
101.2.
Sud Radio.
grandes barres de béton redeviendront sable. Le ciel s'ouvrira sur un idéal. Les satellites, des anges de métal, lanceront des mots d'amour, on trouvera ça normal. Des armes de fer, on fera des fleurs, on mettra du cœur.
Imagine tout ce qu'on pourrait faire
en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre.
Toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité pour parler d'histoire avec Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, qui présente aussi l'émission Historiquement Chaud sur la chaîne Histoire. Il est auteur de nombreux essais historiques comme Le Noir et le Brun sur le fascisme, Le Cercle Rouge sur le Siècle Rouge. Non, vous n'êtes pas cinéaste encore. Et le Siècle Rouge, sur qui sont des éditions Perrin d'ailleurs, à lire, et Arthur Chevalier, qui vient de publier aux éditions du Cerf, cette fois l'histoire à l'épreuve des émotions. Je voudrais qu'on parle aussi de votre passion pour l'histoire, d'où elle vient, puisque vous parlez de l'histoire comme vecteur d'émotions. Mais peut-être une dernière question sur les polémiques autour de l'histoire aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de propagande, de construction historique. On a vu le danger que cela pouvait représenter, notamment à travers l'exemple de Vladimir Poutine. Mais ce que vous dénoncez, vous, dans votre livre, c'est peut-être autre chose. C'est une logique de la table rase, un révisionnisme radical auquel vous avez peut-être été confronté quand vous avez été commissaire de l'exposition Napoléon au moment du bicentenaire. C'était au Grand Palais. Vous racontez cette expérience qui était difficile. Donc il y a plusieurs questions dans ma question. Je ne dis pas que vous avez été victime de révisionnisme radical, mais expliquez-nous tout ça.
C'est-à-dire que ça m'a... alors si on parle de cette expérience, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué, pas tant dans la façon de faire l'exposition que depuis ce poste d'observation où j'ai été et qui s'inscrivait dans le bicentenaire de la mort de Napoléon, qui d'ailleurs pour vous aussi messieurs a été un moment d'actualité forte avec beaucoup d'articles, beaucoup de numéros. Enfin bon, ça occupait la France entière. Et ce qui était rigolo, on va dire, c'est de voir ça. Pour le coup, il y en a eu beaucoup, et comme je le dis souvent, pas du tout que des hommes politiques de gauche, beaucoup de droite, qui ne voulaient pas entendre parler de cette exposition parce qu'elle était un des fers de lance évidemment de ce bicentenaire, mais du bicentenaire tout court en fait. Et comme nous le savons, le président de la République République aura finalement fait un discours bonapartiste sous la coupole de l'Institut.
Donc, parenthèse, le bicentenaire du SAC, c'est un gouvernement de droite qui a refusé de le commémorer.
Et Jacques Chirac avait refusé lui-même de célébrer Austerlitz tout en allant célébrer Waterloo. Bon. bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est des pudeurs incompréhensibles au regard de ce qu'a été l'histoire du Premier Empire et du Consulat. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a eu des choses atroces de fait. Il y a aussi eu des choses extravagantes et extraordinaires qui, aujourd'hui encore, on en tire encore des bénéfices, hein, si je puis dire. Le monde dans lequel nous vivons est le monde de Napoléon. Hein, quasiment la moitié des lois du Code civil sont inchangées depuis qu'il a été créé sous le consulat. Donc, on n'a pas le choix d'aimer ou pas aimer Napoléon. C'est nous, il est au cœur de nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'aimer, ça veut dire qu'il fait partie de nous. Justement, on doit le diagnostiquer, en rejeter ce qu'on veut en rejeter, ce n'est pas la question, mais ça fait partie de nous. Et j'ai été très frappé par... l'enthousiasme général, je veux dire populaire, au sens simple du mot, vous voyez, pour ce bicentenaire, et les pudeurs insensées de la part d'hommes politiques de premier plan, qui pensaient qu'on allait créer des polémiques à n'en plus finir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et je me suis dit à ce moment-là, putain, mais c'est dingue, en fait, on peut avoir une classe, encore une fois, pas tous, puisque le président de la République s'est très bien tenu, donc c'est pas la question, on a fait le boulot, mais je me suis dit, on a une classe politique qui a à ce point peur de notre passé. Mais et là, ça rejoint vraiment ce que je veux dire dans mon livre. C'est-à-dire que le problème, c'est pas d'idéaliser le passé de la France. Personne ne demande de faire ça. Personne n'a dit que la France était un pays vertueux par nature, qui avait fait que des choses bien. Pas du tout, c'est pas ça. Mais simplement, qu'est-ce que c'est que cette logique ridicule qu'on appelle cancel, j'aime pas trop les barbaristes, voilà. Les barbaristes d'origine américaine, mais enfin bon, c'est ça qu'on voit très
culture
bien.
Culture de l'effacement, ouais.
Pourquoi est-ce qu'on devrait interdire une chose? Parce que, en son sein, elle enferme une part d'impureté et de choses qui en tout cas devraient nous faire honte. Mais c'est idiot.
Mais est-ce que c'est un politique qu'on confronte? On peur du passé ou on peur de la réaction supposée des gens si on célèbre ce passé qui a des zones d'ombre?
Mais justement, je pense que vous faites beaucoup de crédit, Jean-Christophe.
Ah oui, mais je pense qu'en fait, vous dites vous-même que vous avez tous les gens qui sont venus sur l'exposition
étaient enthousiastes. C'était très familial. C'était très très familial. Je veux dire.
Et si on poursuit, un an après, il y avait la sortie du film de Ridley Scott dont on peut penser ce qu'on veut
et dont tout le monde a parlé.
Dont tout le monde a parlé et il y a eu aucune polémique.
Bien sûr.
Quasiment. Donc c'est bien la preuve que là, les hommes politiques ont dit oui, effectivement, ça n'a pas fait de polémique sur le bicentenaire, donc on va se taire. Et ils ont bien fait. Après, on pouvait polémiquer sur la nature du film. Crédit historique, etc. Mais ce qui est bien la preuve que je pense que les hommes politiques ont moins peur du passé que de la réaction de leurs électeurs potentiels que ce passé peut choquer.
Je suis partiellement d'accord parce que moi je pense en fait que les hommes politiques, je veux dire pas tous encore une fois, mais je suis moi aussi frappé par le niveau d'inculture. D'ignorance d'homme politique, en fait, c'est pas parce que quelqu'un est ministre qu'il lit des livres et il est au courant de l'histoire de France.
Non, mais je veux dire. C'est plutôt même le contraire.
Non, mais si vous voulez, c'est la garantie de rien, ouais, ce que je veux dire.
Vous êtes dur avec Bruno Le Maire.
Et ça, pour le coup, c'est. J'attaque personne, mais. Et ça, pour le coup, c'est très représentatif du monde dans lequel on vit, encore une fois. C'est pas nouveau, c'est pas une invention de la modernité, ça arrive parfois, ça passe, mais là, on est dans un moment où la sophistication intellectuelle, ça n'intéresse plus personne, et donc ça pénètre beaucoup moins dans la société, y compris d'ailleurs au sein des élites. Mais vous voyez bien ce moment émotionnel. Moi, les passations de pouvoir des gouvernements depuis une quinzaine d'années me fascinent. C'est-à-dire que vous voyez des ministres qui arrivent et qui disent « Je pense à ma grand-mère, mon papa et ma maman. » Mais t'es ministre de la République française, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout le moment de se faire plaisir, c'est une passation de pouvoir, c'est pas la propriété, on t'offre pas une maison, ni un bureau, tu occupes une fonction publique, enfin, ce que je veux dire. Et on voit bien que pour eux,
une responsabilité, c'est un devoir, normalement.
Et ils ont besoin aussi de mettre en avant de façon excessive leur identité, leur individualité, leur vie personnelle, ils en sentent le besoin et leurs communicants leur disent que c'est nécessaire, plutôt que de faire, et d'ailleurs personne ne le fait, un discours de 35 minutes sur André Malraux quand on devient ministre de la Culture, par exemple.
Il le déshistoricise.
Exactement, il le déshistoricise. C'est-à-dire que ça fait juste, c'est simple. La disparition de la culture, c'est juste qu'on le voit plus dans notre entourage. On en parle moins à la télé. C'est juste ça. C'est pas autre chose. Et ça, c'est un fait. Encore une fois, c'est pas une nouveauté. On l'a déjà vécu. On préfère des grands moments de sincérité, des moments d'émotion, des moments où quelqu'un pleure, des moments où quelqu'un crie, des moments où quelqu'un s'indigne. Je pense que ce livre, Indignez-vous, de Stéphane Hessel, a été le juste cri d'une génération. Et maintenant, on peut publier un nouveau livre qui s'appelait Mettez-vous à réfléchir.
Alors, Arthur Chevalier dénonce finalement une forme de télé-réalité qui aurait remplacé l'histoire. Jean-Christophe Bisson, vous parlez quand même des politiques qui étaient terrorisées, pas par les Français sans doute, parce qu'il faut rappeler le succès de votre émission, le succès de l'histoire en général, le succès qu'a été cette exposition sur Napoléon.
Des livres, des documentaires.
Le film, malgré ses défauts, a été bien. Enfin, les gens se sont précipités la première semaine parce qu'ils étaient intéressés par Napoléon. Donc il y a des hommes politiques qui sont quand même terrorisé par des minorités bruyantes. Vous parliez, vous disiez tout à l'heure, on leur accorde trop d'importance. Est-ce que c'est pas le cas, ouais, justement?
Moi, faut
peut-être moins en parler, se moquer d'eux, peut-être. Mais
ouais, moi, j'ai ce sentiment, mais se moquer d'eux devient difficile. Aussi difficile et dangereux. Mais moi, je suis vraiment frappé par effectivement la passion que les gens continuent à avoir pour l'histoire. On a beau traîner dans la boue les émissions de Stéphane Bern ou de Franck Ferrand, ils font de l'audience, et c'est ça. Le problème aussi, c'est que l'enseignement de l'histoire était confisqué à un moment donné par une caste d'universitaires qui considéraient qu'il fallait raconter l'histoire par des tout petits détails, la raconter dans une gangue marxisante qui est que c'est des grands mouvements collectifs, que l'histoire est dépendante du climat, de l'économie, des finances, et pas tellement des hommes qui font l'histoire, même si, comme disait Raymond Aron, on ne sait pas quelle histoire ils font, mais ce sont les hommes qui font l'histoire. On a négligé ça. Et qu'est-ce que les gens adorent? Moi, je vois dans les réactions sur les livres ou sur mes émissions, ils adorent qu'on leur raconte des histoires d'hommes et de femmes qui ont fait l'histoire, qui ont participé à l'histoire, qui ont dirigé des armées, des mouvements, et aussi bien, encore une fois, de gauche ou de droite. Là, il n'y a plus de gauche ou de droite, c'est l'histoire globalement. Et ça contraste effectivement avec l'inculture ou la crainte de certains hommes politiques que cette histoire bien soit récupérée par l'émotion, par la notion où est la victime dans cette histoire. Ben, il n'y en a pas forcément. Si, il y en a, mais peu importe.
Chacun son tour.
Chacun son tour. L'histoire est une roue rouge, comme disait Solzhenitsyn, pour reprendre cette expression. Et ça me frappe beaucoup, ce décalage que Arthur Chevalier a ressenti lorsqu'il faisait, qu'il était commissaire de cette exposition, entre une certaine élite et le peuple qui vient voir Napoléon sans penser mal, qui vit le moment d'histoire qui a été Napoléon, qui l'apprécie. Et puis, les autres sujets, c'est fait pour les spécialistes, les historiens, qui vont se disputer sur le rétablissement de l'esclavage. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'était par rapport à l'économie, par rapport aux Anglais, par rapport à sa femme, etc.? Mais ce sont des détails. Globalement, on retient de Napoléon une histoire épique qui fait la fierté des Français.
Mais l'émission touche presque à sa fin, Arthur Chevalier. Je voudrais
ce que vient de dire Jean-Christophe est très important, et ça, c'est bien sûr que c'est l'histoire collective, tous les hommes font l'histoire, évidemment c'est l'histoire de l'humanité, mais quand on dit que c'est pas les grands hommes qui font l'histoire, je veux dire qu'on a tendance à les invisibiliser. Demandez-vous simplement ce qu'aurait donné la Seconde Guerre mondiale si ça n'avait pas été Roosevelt, le président des États-Unis, et Winston Churchill, le Premier ministre. D'ailleurs, avant Winston Churchill, c'était pas eu le Premier ministre. Et quand c'était pas De Gaulle, le chef de la France, on voit très bien ce que ça a donné. Donc, si c'est pas les grands hommes qui font l'histoire.
Et justement, il nous reste une minute. Vous êtes tous les deux passionnés d'histoire. Je voulais savoir comment était née votre passion. Quelle figure vous avez inspiré? Arthur Chevalier, je suppose que c'est Napoléon, mais peut-être que je me trompe. Il y en a peut-être d'autres.
Napoléon, Louis XIV, Château de la Loire. Enfin, c'était vraiment du folklore de l'histoire de France qu'on adore, quoi, voilà. Les Trois Mousquetaires, enfin l'histoire de la culture populaire, quoi, voilà, très simplement.
Jean-Christophe Buisson.
Moi, c'est vraiment Napoléon Louis XIV, mais par Jacques Bainville. C'est en lisant les livres de Jacques Bainville que je me suis mis à aimer les grandes figures de l'histoire, et par des professeurs, parce que c'est ce qu'il faut dire avant tout, c'est souvent la passion d'histoire chez les historiens naît parce qu'il y a quelqu'un qui vous a enseigné à un moment donné l'histoire d'une telle manière que vous avez décidé d'aller plus loin. Moi, c'est vraiment mon cas.
Bien sûr, et il faut vraiment se détendre par rapport à l'histoire. Vraiment, il faut se décontracter par rapport à ça. C'est cool, l'histoire.
Et ben voilà, on termine là-dessus. C'est cool, l'histoire. Ce sera le mot de la fin d'Arthur Chevalier. Mais en tout cas, lisez, inscrivez-vous, dévorez des romans historiques. Et on se retrouve surtout la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité. En attendant, je vous laisse avec les informations. Merci et à bientôt.
Sud Radio à Lannion en DAB+.
Sud Radio.
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchées, tu vibres encore, tu vibres encore. Allez debout, allez sors, je te sens battre au fond de moi. Thank you.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Benjamin Glaise.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Petit Matin de Sud Radio. Bah oui, je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe qui est là, qui est présente, les fidèles, John à la réalisation également présent, Rémi André, dans un instant la météo et puis le journal de 5h qui sera présenté par Laurie Leclerc. Maxime Trouleau fait son retour pour la revue de presse tout à l'heure à partir de 5h30, sans oublier le meilleur de vos émissions. J'espère que vous avez bien profité de ce week-end de grand pont pour ceux qui ont pu partir un petit peu ou simplement se reposer. Week-end estival, on a eu des températures assez élevées avec du beau temps, du soleil. J'espère que vous en avez profité parce que c'est vrai que cette semaine ça va être un petit peu différent. La météo un petit peu perturbée, dégradée, on verra ça avec Rémi André dans quelques instants. Et puis petit bonheur en tout cas de ce début de journée, de ce début de semaine, tout à l'heure avec Patrick Roger, à partir de 6h30, 8h30, vous fera gagner vos vacances. Bah oui, on y pense déjà, après le pont des vacances, Lagrange Vacances, un séjour d'une semaine que Sud Radio vous offre pour vous remercier de votre fidélité. 6h30, 8h30 avec donc Patrick Roger et puis vous le savez, 8h30, Jean-Jacques Bourdin qui fait lui aussi son retour, son invité politique. 8h30, 9h, ce sera Malika Sorel, candidate RN aux élections européennes, qui est numéro 2 sur cette liste Rassemblement National pour les Européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. On s'en rapproche, 4h57, très bon réveil à tous avec Sud Radio. Tout de suite, c'est l'horoscope.
L'horoscope Sud Radio.
Et c'est avec vous Bénédicte, bonjour.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 mai. Bélier, la semaine est idéale pour élargir votre cercle relationnel. Dans le secteur financier, de belles opportunités sont à votre portée. Taureau, vous entrez dans une période durant laquelle l'ouverture aux autres et leur conception apportent de l'eau à votre moulin. Gémeaux, l'agitation vous oblige à relativiser. Un peu de stress à prévoir, mais vous pouvez accéder à la sérénité si vous domptez vos émotions. Cancer, c'est l'occasion de réaliser quelques gains financiers que vous ne devez qu'à vos propres talents. Lion, vous vous sentez contraint de mettre un frein à votre tempérament bouillonnant. Ambiance trop sérieuse et ennuyeuse pour pouvoir vous épanouir. Vierge, vous êtes plus convaincant que d'ordinaire. Plus mordant et stratégique, plus profond dans vos sentiments. Balance, votre résistance et votre courage viendront à bout de cette ambiance démoralisante. Entourez-vous d'une ambiance zen. Scorpion, ces quelques semaines peuvent s'avérer très profitables pour mettre vos biens à l'abri ou en changer s'ils sont devenus obsolètes. Sagittaire, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous vivez à 100 à l'heure et vous multipliez les activités audacieuses. Capricorne, la semaine est teintée d'une sensualité qui n'est pas pour vous déplaire et qui apaise les éventuels conflits. Verseau, le moment est venu de consolider vos liens familiaux, de leur apporter substance et longévité. Poissons, l'ambiance devient beaucoup plus communicative et vous donne des occasions de vous amuser et de vous instruire.
Merci beaucoup Bénédicte.
La météo Sud Radio.
La météo avec vous Rémi André. Bon, le temps a un petit peu tourné. Bonjour Rémi.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien, nous aurons droit aujourd'hui à une journée assez perturbée. Alors, on va commencer d'abord par ces averses qui traînent encore ce matin depuis l'Occitanie jusque vers le Grand Est. Elles sont plus nombreuses sur le Nord-Est. Dans le milieu de journée, eh bien, cela se calmera un petit peu pour reprendre dans l'après-midi. Et alors, toutes ces averses vont reprendre parfois un caractère orageux depuis le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, jusque vers le relief des Alpes du Sud. En pendant ce temps, à l'ouest, là, c'est une perturbation qui arrive dès ce matin sur la pointe bretonne. Une perturbation assez active d'ailleurs, avec des pluies assez soutenues, qui peu à peu va envahir tout l'ouest.